Il y a un nouveau retour de balancier et c'est dans le cadre de cette période de heurts qui dure entre mois de mars, mois d'avril, début mai.
Là, on est en 2014.
Hein, on est en 2014, qu'à Odessa, il y a des heurts en ville, entre une manifestation pro-russe et des manifestants pro-Maïdan. Les manifestants pro-russes se réfugient dans la maison des syndicats. Des manifestants pro-Maïdan balancent des cocktails Molotov. L'incendie prend et il y a plusieurs dizaines de morts dans la maison des syndicats. Sachant qu'évidemment, la police n'est pas intervenue pour séparer les deux camps parce que, et ça c'est une des raisons des premiers succès des séparatistes, c'est que les flics eux-mêmes, ils savent pas ce qui va se passer demain. Donc les flics, avant d'intervenir, ils se demandent, ben oui, mais si je fais un truc et que demain on me reproche de l'avoir fait parce que c'est les uns ou les autres qui ont pris la main, moi je veux pas de problème, donc je préfère ne pas intervenir. Même chose, les pompiers sont pas intervenus ou tardivement intervenus pour la même raison de désorganisation des pouvoirs publics. Et donc il y a eu tout un moment comme ça où l'État en Ukraine a vraiment vacillé au printemps 2014 et d'après ce qu'on sait aujourd'hui, c'est à ce moment-là que la Russie a poussé son avantage. Et on le sait pourquoi, parce que la première ville qui s'est déclarée séparatiste dans le Donbass, c'était Slaviansk, avec un type qui s'appelait Strelkov Girkin, qui était un officier des services spéciaux russes, officiellement en congé, pour défendre ses compatriotes dans le Donbass. Sauf que depuis, le bonhomme, il s'est fâché avec Poutine, et donc il a expliqué comment il a mené son opération. Il est parti avec 50 hommes, ils ont traversé la frontière de la Russie à l'Ukraine, et ils ont pris la ville de Slaviansk, mais c'est intéressant, parce que la ville de Slaviansk, c'est, je crois, à peu près 150 000 habitants. Il a pris une ville de 150 000 habitants avec 50 hommes. Alors, des hommes sérieux, avec entraînement militaire. Mais ça veut quand même dire que localement, la police et même les unités de l'armée régulière ukrainienne qui étaient dans le coin étaient largement plus nombreuses. Et donc ça veut dire que pour prendre une ville comme ça avec 150 hommes, ça veut dire qu'il y avait un certain soutien de la population.
Donc on voit bien là que c'est les prémices en fait. C'est le tournant dont Poutine va, intelligemment on peut le dire, hein, à l'époque, il va profiter de ça, il va bien voir que la situation lui est propice, donc il va avancer ses pions. 2014 jusqu'à 2022. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, on va pas faire de la grande géostratégie, mais alors, ce qu'on a plus ou moins retenu, c'est les discussions OTAN, Europe, Union soviétique.
Union soviétique, elle n'existe plus depuis longtemps.
Russie. Tu vois, c'est un.
Ne mélangeons pas les torchons et les soviets.
Ce que tu viens de nous expliquer là montre bien qu'il y a une montée en fait des tensions, il y a une montée donc de la société ukrainienne elle-même est minée de l'intérieur et que c'est sur cette société affaiblie que va jouer en fait la Russie pour tirer son épingle du jeu
en 2014.
Sorte.
Alors et y compris parce que l'armée ukrainienne en 2014 est totalement incapable de reprendre le Donbass, alors parce que elle est mauvaise techniquement en tant qu'armée, mais y compris parce que en se rapprochant du Donbass, moi j'étais en Ukraine en avril 2014 et j'ai vu en direct à la télé des mamies sortir de leur petite maison, se mettre devant un char en disant rentrez chez vous maudits, vous nous apportez la guerre, donc ils n'étaient pas les bienvenus.
C'était des chars ukrainiens.
Et donc, à partir de ce moment-là, c'est des volontaires et souvent des anciens du Maïdan, donc des gens qui avaient été dans ces unités d'autodéfense structurées par l'extrême droite, c'est des volontaires qui vont aller au front dans le Donbass et faire ce que l'armée ukrainienne n'était pas capable de faire. Des volontaires souvent payés par des oligarques Et y compris, ça veut dire que parmi les oligarques ukrainiens, il y a eu en 2014 un basculement général. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'oligarque du côté séparatiste, du côté pro-russe. Y compris le principal oligarque du Donbass, Rinat Akhmiatov, qui à l'époque était encore riche. Son patrimoine était estimé à 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 10 fois moins. Bon, 2 milliards de dollars, le pauvre. Ouais. Tout ce qui lui reste. Y compris lui, n'est pas passé du côté séparatiste et du côté pro-russe alors qu'il a l'essentiel de ses entreprises dans le Donbass. Et donc, on a des volontaires pro-russes dans le Donbass, soutenus de plus en plus par l'armée russe, même si elle dit qu'elle n'est pas là. On a des volontaires pro-Kiev de l'autre côté. Et dès que les combats se calment en 2015 avec les accords de Minsk, globalement, aujourd'hui on le sait, hein, moi je le voyais pas avant, hein, mais globalement on a préparé la suite. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne s'est totalement restructurée et on a vu qu'elle a tenu le choc en février 2022, ce sur quoi personne ne pariait, y compris du côté occidental. Il faut savoir que les occidentaux au début voulaient pas filer d'armes aux Ukrainiens, parce qu'ils pensaient que s'ils filaient des armes aux Ukrainiens fin février début mars, ces armes-là allaient se retrouver du côté russe, tellement les Russes allaient avancer rapidement. Et du côté russe aussi, on a préparé la suite, alors visiblement moins efficacement que du côté ukrainien, sachant que du côté ukrainien, et ça c'est pas un secret, il y a eu une aide de différents pays de l'OTAN depuis 2014-2015.
Voilà, on arrive au terme de l'émission. On a balayé comme ça quelques grandes périodes de l'histoire mouvementée de l'Ukraine et aussi d'une partie de la Russie. On espère qu'on vous a apporté quelques clés de compréhension. En tout cas, je pense que tu partages cet avis. On n'avait pas la prétention de donner l'explication ultime, mais en tout cas des éléments qui nous permettent de mieux comprendre la situation actuelle. Merci à toi Eric pour la clarté de ton exposé et puis toutes les choses que tu nous as apportées. Je crois que tu as publié quelques ouvrages. Alors il y a un livre, il est toujours disponible, je crois.
Ils sont tous toujours disponibles.
Voilà. Histoire partagée, mémoire divisée, c'est chez quel éditeur ?
Aux éditions Antipode, et c'est un ouvrage que j'avais dirigé avec deux collègues, une collègue genevoise, Corinna Macher, et un collègue ukrainien, Andriy Portnov.
Et puis un autre ouvrage, Le communisme tout de suite, les mouvements des communes en Ukraine soviétique, ça c'est plus historique, donc sur
la période de la guerre civile, 1919-1920.
D'accord, il est chez quel éditeur ?
Les Nuits Rouges, un petit éditeur.
Voilà, oui, on le connaît bien, voilà. Les Nuits Rouges. Et tu animes aussi un site sur lequel on peut retrouver beaucoup d'articles. Tu peux nous donner l'adresse de ce site ou comment on peut...
Komuna.net, donc Komuna, c'est la commune en russe.
Avec un K, hein.
KO2MUNA.net.
D'accord, sur lequel on peut retrouver beaucoup d'articles que tu as publiés. Il y a aussi, on peut trouver sur YouTube ou d'autres chaînes de vidéos des interventions que tu as pu faire sur ce sujet de l'Ukraine.
Et une dernière chose concernant les livres, normalement cette année sortira aux éditions Genevoise Entremonde une édition commentée de la Révolution inconnue de Voline, sur laquelle j'ai travaillé avec mon collègue et ami Pierre Boutonnet.
Et ce sera l'occasion de venir nous en parler sur cette antenne. Merci
à
toi.
Avec plaisir.
Minou, où est-ce qu'il est encore passé ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Tiens, vas-y. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Édito du lundi 15 mai 2023 du Monde Merveilleux d'après. Voilà 3 mois que l'autoritarisme étatique dévoile sa vraie nature, de forte oppression de la population d'une part, sous couvert de paix sociale, et d'une autre de serviteurs de l'économie capitaliste de classe. Mais la contestation sociale, exprimée sous forme de manifs sauvages ou de casserolades, convoque-t-elle un antiparlementarisme pour autant ? À ce questionnement, nous consacrons une émission, l'antiparlementarisme en France. Le mouvement des Gilets jaunes a initié une nouvelle forme de lutte politique, affranchie des traditionnels partenaires sociaux, mais sans remettre en cause l'étatisme envers lequel ils réclamaient un référendum d'initiative citoyenne. Les manifs sauvages, anti-réforme des retraites, tout en rejetant le césarisme présidentiel, semblait s'orienter vers un strict assujettissement du régime parlementaire à la volonté de la rue. De la démocratie directe, que nenni ! En cette journée internationale des familles, telle que le formule l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, communauté d'individus réunis par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines, nous pourrions choisir la famille affinitaire et de classe. Alors comment vaincre la résistance à la vérité de l'art complexe, de la dialectique et la force d'inertie des individus victimes du système préférant le repli égoïste plutôt que la solidarité révolutionnaire? Vous le saurez à l'écoute du Monde Meilleur et du Travail avec le mythe de la grève générale en point de mire et tout de suite, sans que rien d'autre que le jingle ne nous freine, notre chronique collective, l'almanach culturel de l'actualité brûlante sur le thème de la victimisation des élites au pouvoir.
Guide en flic, sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue, elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse la reconnaître.
On ne regrette pas sa soirée.
Quand il est agent, c'est le plus charmant des hommes, avec même de l'éducation.
Et instruit, capable de causer tout.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous qui avez cru que le 1er mai serait le préambule à une nouvelle révolution sociale et libertaire, et vous avez attendu ce moment avec impatience, vous voilà bien contris. Mais vous n'avez perdu que vos illusions, d'autres ont perdu une main par-ci, gagné un cocard par-là. Donc, mais de tout ça, est-ce le pouvoir qui est victime ? Les violences ne sont pas assez condamnées dans le domaine public, dit Darmanin, ministre de l'Intérieur, hein, je vous rappelle, si vous ne savez pas. Les syndicats réformistes les plus pusillanimes se précipitent dans la brèche et la FSU se soumet aussitôt à la demande du ministre de l'Intérieur. Tous les partenaires sociaux et les parlementaristes vont devoir, un jour ou l'autre, prendre position, car on ne mord pas la main qui te nourrit. Toutefois, c'est aussi l'occasion de discréditer les partis politiques parlementaristes, opportunistes, d'opposition aux visées au gouvernement, ainsi les LFI, dont Mélenchon, qui soutient avec ses visées électoralistes l'actuel mouvement social, sont fustigés. Ils en appelleraient à l'insurrection.
Il en va aussi des médias politiques complices de cet état de fait. J'en prends pour témoin France Info dans son édition de 20h du 2 mai 2023, où un certain Jean-Rémy Baudot, que je ne connais pas, nous rappelle ce qu'est une insurrection. Je cite « soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi ». Et il cite comme exemple la Commune de Paris. Comme si c'était une maladie infectieuse, bien sûr. Donc, s'il convient que le cortège du 1er mai était exceptionnellement uni et imposant, il faut le dire, et le rappeler, il était également empreint de violence. Mais lesquelles ? Or, on comprendra, à l'écoute des éditoriaux, ben, j'ai un peu de mal avec la pluie, suivant, combien de violences, combien d'interpellations, nous interroge-t-on. Et là, on comprend bien que c'est parmi les manifestants qu'il faut chercher les mauvais éléments, qui ont gâché ce défilé que tout le monde voulait docile. Les mauvais éléments et un peu la pluie aussi, il faut le dire. Pourtant, quand on regarde Twitter, on voit bien que la police brutalise plus souvent qu'à son tour. Que les charges sont davantage destinées à impressionner le quidam, à terroriser la foule, sans ménagement ni distinction. Mais les médias télévisuels ne sont pas en reste. Les images sont traitées avec sensationnalisme et toujours destinées à une population peureuse et à laquelle il faut faire peur, bien sûr. Dans l'attente d'images chocs qui vont orienter leur choix politique ultérieur de citoyens respectueux de l'institution établie parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Et BFM commente cette superbe image d'un flic qui tombe parmi ses collègues comme une victime, je cite, d'un projectile explosif, semble-t-il, lancé par les factieux. Mais là encore, via les réseaux sociaux, les reporters indépendants nous révéleront la supercherie, puisque c'est un flic qui a lancé, assez mal, j'en conviens, de l'arrière une grenade assourdissante qui a éclaté sur la nuque de son collègue, à l'avant, en lui cassant trois vertèbres au passage. Alors, nous comprenons mieux les déclarations du
préfet Nunez, invité sur France Info. Les casseurs sont mieux organisés, mieux armés que la police. Ils visent mieux, surtout. Les casseurs sont mieux organisés. Il en résulte donc davantage de blessés parmi la flicaille, qui est passée de 108 à 400 entre le 1er et le 2 mai, contre 60 blessés chez les manifestants. Mieux armés que la police. Casque, protège-tibia, bouclier, gilet pare-balles, etc. font partie de la panoplie, non pas des 10 casseurs, mais des forces de l'ordre. Par contre, les gamins en short qui sont en face disposent de redoutables armes par destination, que sont les lunettes de piscine et d'un cache-col, voire d'une pendrole. Pourtant, les réseaux sociaux nous révèlent les provocations de certains policiers harnachés envers les manifestants. Notamment un grand tout sec avec des gimmicks caricaturales du jeune de cité. « Viens, viens là !» Tout épaule en avant dans une attitude décontractée. Il ne prend pas de risque parmi ses 100 collègues tout aussi carapassonnés. Voilà. Nous, administrés et contribuables, nous sommes raquettés sur nos revenus afin de financer les rémunérations des fainéants pour assouvir leur soif de violence et leur frustration sociale. Qui de plus font passer leur tendinite de tabasseurs, qui ne serait pas reconnue comme maladie professionnelle en accident du travail lors des confrontations dont ils sont à l'origine. Et vu la sollicitation qu'il aurait faite ces derniers mois, ces arrêts de travail compenseront les congés payés qu'ils n'auraient pu prendre autrement.
Yeah.
All Cops Are Bastards. C'était, alors je ne me rappelle plus le nom du groupe, mais il fait partie de la bande originale d'un film qui s'appelle ACAB, qui est sorti en 2012. Bon, parfois un film qu'on peut, n'est pas obligé de regarder, parce que peut-être pas forcément si bien que ça. Mais voilà, la chanson est sympa, même si c'est pas le groupe, donc j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui l'a composé, puisque c'est un groupe des années 80, ouais. Bien connu.
Ah, que j'ai bien connu, oui.
Voilà, The Foreskins, voilà, groupe anglais.
Autre vie, autre époque.
Donc ce soir, notre émission est consacrée à l'antiparlementarisme, et pour parler de l'antiparlementarisme, ben, on en a invité un.
Oui,
j'espère.
Oui, je suis réveillé. Allô, allô, allô.
C'est Frédéric. Ouais. C'est parti de l'AFA, du groupe commune de Paris.
De Paris, voilà, exactement. Ah, il y a beaucoup à dire sur l'antiparlementarisme, hein, et ça.
Oui, ben, hey, on a 1h30, hein, on n'a pas deux jours.
Et puis.
Alors, donne-nous une définition de l'antiparlementarisme, tiens, au lieu de rigoler.
Ah tiens, c'est marrant ça. Bah écoute, c'est un projet de société, hein, sans parlement. Parce que moi, je crois pas trop en la démocratie directe, comme certains...
Démocratie représentative.
Oui, représentative, ou comme certains parlent de démocratie directe. Enfin, je sais pas, j'ai vu ça sur des médias et ainsi de suite. Où il y aurait quand même encore un gouvernement... Et donc, les citoyennes et les citoyens seraient appelés à donner leur avis. Mais bon...
Mais leur avis à qui ?
À qui ? À un parlement, bien sûr, qui certainement validerait ou pas les référendums, et permettrait ou pas les référendums. Et puis, bon, bah, dès qu'il y a un embryon de gouvernement, ça pose toujours un problème de prise de pouvoir, d'usurpation, d'abus de pouvoir, et ainsi de suite. Hein. Donc, ça, le... Croire qu'en 6e République, par exemple, comme j'ai entendu parler, avec des personnes avec qui j'ai discuté en manifestation, qui me disaient, mais il faut refonder une 6e République, et moi je leur disais, ben non, on en a déjà fait 5. Et en plus de ça, là, même apparemment, le gouvernement en place veut déjà réformer encore la constitution de la 5e République. Donc c'est là certainement la énième fois qu'il y aura des ajustements, des bidouillages, ainsi de suite, de la 5e République. Donc pourquoi une 6e République serait cadenassée par des parlementaires qui la façonneront certainement à leur avantage et à la façon du pouvoir qui serait en place et pour le profit des petits amis de ce pouvoir. Donc non, le Parlement, non.
Et toi, Fabrice, une définition de l'antiparlementarisme ?
Ah bah moi, je vais pas me faire chier, j'ai mes notes. Hein. Ah bah, je dirais plutôt que c'est une... Alors déjà, c'est une disposition de l'esprit, un petit peu. Je prends un petit peu, beaucoup. En réaction à un régime politique démocratique. Enfin, qui est démocratique. Après, c'est quelle démocratie on veut laisser s'exprimer. C'est ouais. Donc, bah, l'antiparlementarisme, c'est tout ce qui s'oppose à des. Pour reprendre la phrase de Proudhon, qui est contre la loi de la majorité, tout ce qui est et qui va opprimer. Ou obliger, en tout cas, la minorité. Donc, c'est une... Enfin, bon, après, ça, c'est pas de l'antiparlementarisme. On est contre, parce que l'antiparlementarisme, c'est s'organiser autrement, prendre des décisions autrement que par un régime parlementaire, donc un parlement, même un Sénat, et puis un président de la République. Enfin, pour moi. Et donc, c'est l'expression de la rue... Après, comment on s'organise ? Enfin, moi, j'ai la solution, c'est le syndicalisme révolutionnaire.
Alors, toi, effectivement, gros, il va dire que l'antiparlementarisme s'oppose au parlementarisme. Tout bêtement, le parlementarisme, c'est l'organisation de la société politique en représentant et en représentation politique. Donc, l'individu par des intermédiaires, accèdent à un pouvoir supérieur. Accèdent au sens de communiquer à un pouvoir supérieur qui, lui, va décider des grandes orientations une fois que, alors, par le biais des élections, les représentants de ces individus ont été élus par ces individus, choisis par ces individus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'individu se prive, en tout cas se délègue, mais s'en prive finalement, se prive de son pouvoir ou de ses pouvoirs à des spécialistes, des intermédiaires, qui sont les parlementaires, qui sont des spécialistes de la chose politique finalement. Un peu comme on va chez le médecin parce qu'on n'est pas médecin, ou que si tu veux monter un mur autour de ta maison, bah, tu fais appel à un maçon qui est le spécialiste des murs. Voilà, c'est un peu ça, sauf que autant on peut... Alors on peut tous être un peu maçon, hein, suffit d'être pas trop maladroit avec ses petites mains, ses petites mains. On peut... Médecin, c'est un peu plus compliqué quand même. Hein. Mais la représentation politique, en revanche, ça ne nécessite pas effectivement une médiation. Donc c'est au sens de... Voilà, dans ce sens-là, pour moi, qu'il n'y a pas nécessité d'avoir une activité parlementaire, et que le parlementarisme, tout ce qui... ce que ça génère, c'est-à-dire les élections de députés ou de sénateurs. Alors ça, c'est encore une escroquerie, puisque c'est une élection qui n'est pas une élection directe, hein, qui est une élection indirecte.
En fait, à part le Parlement et le président de la République, actuellement, personne n'est élu directement. Hein. Que ce soit le Sénat, le Conseil constitutionnel, les ministres... Ils sont tous ou moins choisis par le président, en fin de compte.
Oui, c'est ça. Ils sont choisis par le président et le premier de ses ministres qu'il a appelé auprès de lui. Donc, effectivement, c'est pour ça que le président de la République est le maire, et encore, le président de la République, c'est une personne qu'on élit. Un député, c'est un binôme. C'est le député plus son suppléant. Pareil, c'est assez ambigu, hein. Le maire, eh ben, c'est une liste. Les municipales, c'est une liste. Donc, en fait, c'est jamais vraiment une délégation ad nominem qui pourrait être... Nous, on peut avoir des mandatés. Mmh. Là, c'est pas une élection, mais on confie une mission.
Une désignation. Désignation sur une proposition de quelqu'un qui veut...
Voilà.
Qui se porte... candidat, oui. C'est pas un candidat, mais qui se propose de mettre en place.
Ou on peut mandater un camarade pour aller à Pétaouchnok nous représenter notre syndicat ou notre région.
Il y a eu une décision préalable, voilà, collective.
Ouais. Donc on n'est pas contre le mandatement, on n'est pas contre le fait d'envoyer une personne plutôt que d'arriver à 500 pour prendre le train, etc. Ça n'a pas de sens d'un point de vue matériel et organisationnel. En revanche, les élections parlementaires, alors celles qui sont directement issues du vote populaire, en fait, c'est une, voilà, on confie un blanc-seing.
Alors justement, est-ce que le parlementarisme, justement, le fait qu'on passe par des représentants, est-ce que c'est pas aussi lié, on va dire, au philosophe des Lumières, entre guillemets, qui avait quand même une... et pas que, mais en remontant aux Lumières, il y avait quand même une certaine défiance envers le peuple. Envers un peuple, qui ne maîtrisait pas le
peuple est un enfant.
Les rudiments de...
Le peuple est un enfant. Enfin, dans les Lumières, jamais le peuple n'est... On le cherche à le protéger. Il est faible, il ne sait pas. Donc,
C'est quand même, à part Rousseau peut-être, alors que ce n'est pas celui que je préfère, non, mais Rousseau, c'est peut-être le seul qui, lui, n'avait pas cette méfiance dans les capacités politiques du peuple. Tous les autres sont... Chez les pourra le voir aussi par la suite, chez les socialistes, il y a aussi cette méfiance. Alors, ils n'en sont pas à se dire il faut des représentants, mais il faut quand même une éducation. Il faut que les gens puissent comprendre, il faut qu'ils puissent lire aussi un certain nombre de documents. Bon, En tout cas, enfin, moi, je pense que les philosophes des Lumières ont sans doute, pas directement, indirectement, participé au fait que la bourgeoisie, en plein essor, parce que, en fait, même si le parlementarisme, les parlements existaient avant la Révolution française, c'est vraiment à la Révolution française que s'est mis en place un système parlementariste. Enfin, au début. Alors, ça n'a pas été simple.
Non, puis ça part,
Il y en a eu, il n'y en a pas eu, il n'y en a plus.
Oui. Puis je t'en raccourcis un, je t'en raccourcis d'autres.
Mais, en fait, je dirais que le parlementarisme existait avant la Révolution.
Oui, le Parlement de Paris, par exemple. Hein.
Les parlements, il n'y a pas que le Parlement de Paris, il y avait le Parlement de Bretagne. Et le système parlementaire d'ancien régime est différent, mais il existe.
Mais oui, d'accord, il y avait un parlement, donc un parlementarisme, mais les décisions revenaient en dernier ressort quand même au monarque.
Alors là aussi, ça dépend des périodes.
Puis, non, mais avant la Révolution française,
ouais.
On va dire. Et le monarque, il est roi de droit divin, donc il y a une sorte de mystique qui s'installe entre le peuple et le roi, dans le pouvoir. Et le Parlement est sans doute là pour.
C'est un élément de rivalité. C'est un élément de rivalité sous l'ancien régime, le Parlement. La preuve en est, c'est que.
Il y a eu la Révolution.
bien avant, en février 1673, Louis XIV, qu'on avait marre de voir ces gens l'importuner dans l'idée qu'il avait du royaume de France, leur a suspendu les remontrances, le droit de remontrance, à savoir dire avant la promulgation d'un édit ou de donner leur avis. Et cet avis avant la promulgation de l'édit avait la possibilité d'influer sur le contenu de l'édit ou de l'ordonnance. Il a dit, à partir de maintenant, vous donnerez votre avis. Je vous le retire pas, mais vous le donnerez après que j'ai promulgué mon édit ou mon ordonnance. Et là, ils ont le droit de blablater. Du coup, on a fait un parlement de pipelettes, mais plus d'effet sur le texte législatif. Et puis, vous oubliez que la fronde, hein, ça a été, il y a eu une période de fronde parlementaire au milieu à la fin de la première moitié du XVIIe siècle, et il s'en est souvenu, le petit Louis XIV. Son successeur a été défié par le Parlement, et à un moment donné, Louis XV, il en a eu marre, et puis il a renvoyé le Parlement, chose qui était absolument terrible à l'époque. Donc janvier 1771, allez hop, tout le monde descend, quoi. Donc il y avait un parlementarisme, alors que il y avait un, alors c'est du coup c'est drôle parce qu'il y avait un anti-parlementarisme de haut en bas et un anti-parlementarisme de bas en haut.
Mais je crois que ça existe toujours, hein. Là, on part un peu dans tous les sens, enfin pas dans tous les sens, mais quand on voit qu'effectivement, ce que je voulais dire, enfin, j'aurais aimé qu'on fasse un petit peu plus chronologiquement, mais pour en revenir là-dessus, tout ça c'est l'héritage aussi de la République, de la République telle que de la France depuis la République plutôt, en passant par le consulat, le Premier Empire, la monarchie constitutionnelle, la Seconde République. Je crois qu'il y a eu des. Je pense que Napoléon a beaucoup influencé sur le mode de gouvernement, de gouvernance, je ne sais pas comment on peut dire. Je veux dire, le bonapartisme a une. Merde.
Une influence,
Une influence, ouais, c'est ce césarisme présidentiel qui peut facilement prendre des décisions, pas seulement facilement, mais qui prend des décisions, et même sous la monarchie constitutionnelle où il y avait des ordonnances, tout simplement. Je crois que c'est Charles X qui a beaucoup.
Mais le Parlement était très vivant, hein. Ça n'avait rien à voir avec Napoléon, quoi. Le Parlement était très vivant, c'était un peu le bordel.
Non, je veux dire, ce qu'a légué Napoléon, ouais. C'est ce. j'essaie de reprendre des notes un petit peu.
Absolutisme, je sais pas. Enfin,
c'est pas l'absolu.
C'est la verticalité, peut-être, la prédominance du pouvoir. Bah,
c'est le césarisme démocratique, suffrage universel publicitaire, on a revu aussi avec Napoléon III, et le pouvoir personnel, qui lui est délibérément anti-parlementaire, puisque. Alors, Napoléon, c'était les senatus consultes, et puis aussi des ordonnances aussi, sans doute. Macron nous a fait ça aussi, des ordonnances, des décrets, des 49-3. C'est rien d'autre.
Ah oui, c'est une forme d'anti-parlementarisme, oui. Qui dit pas son nom, parce qu'on n'a pas entendu. Moi, j'ai pas lu nulle part une forme d'anti-parlement. Enfin, qu'un journaliste quelconque, qu'un analyste quelconque, et alors pas tout lui non plus, et parler d'anti-parlementarisme macronien, mais il existe.
Mais il existait aussi sous De Gaulle, et puis il a quand même participé beaucoup à la constitution de la cinquième République et de la constitution de la cinquième République, et c'est ce qui permet justement de passer des 49-3 et puis.
Puis dans quelles conditions il l'a fait aussi, hein. C'est-à-dire qu'en 58, quand il déboule et puis qui dit à c'était Coty à l'époque, qu'il arrive et puis en gros, je fais du raccourci dans le genre bon bah écoute t'es bien gentil, tu prends tes valises et puis sans quoi c'est limite peut-être pas un coup d'état mais enfin presque quoi tu vois. Donc Coty bon bah ce pauvre monsieur, pauvre je sais pas s'il était réellement pauvre, mais enfin bon il a compris que c'était pas dans son intérêt de s'accrocher à la quatrième et puis bon bah voilà hein, c'est quand même un gros coup de force quand même pour passer. Et il se taille un costume sur mesure, en plus de ça. Hein. C'est-à-dire, c'est le président qui prend le pas sur l'Assemblée. Et là aussi, c'est de l'anti-parlementarisme aussi, hein, quelque part. Hein. Parce que la quatrième, avec toutes ces, comment je vais dire, ces revirements, ces gouvernements qui étaient défaits, recomposés, ainsi de suite. Donc, De Gaulle arrive en disant, bon, bah là, c'est fini, hein, on siffle la fin du parti, des partis quoi en fait et c'est ça revient avec on traîne toujours cet héritage hein, malheureusement hein.
Bon, alors moi je voulais plus qu'on parle de l'anti-parlementarisme des camarades
mais... on va y arriver
donc alors moi puisque j'ai évoqué la Révolution française avec les États généraux qui se transforment en Assemblée nationale il y a aussi enfin je me trompe peut-être.
Non,
il y a la déclaration dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a cette phrase que j'ai soulignée, mis en exergue, c'est tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi. Alors, est-ce que ça peut pas être une phrase qui à la fois promeut le parlementarisme et l'anti-parlementarisme? Parce que si on a le droit de concourir personnellement, c'est-à-dire que c'est pas forcément par le représentant.
C'est où et
c'est et où. Ah oui, c'est pas et, c'est où. Donc on peut y aller. Hop, on n'est pas content, on sort avec sa casserole, ou alors on va élire. moi je lis comme ça, ouais. C'est quelque chose d'assez ambigu. Si on parle de. C'est pas ambigu. Enfin, si, c'est ambigu, mais si on parle de cette phrase, effectivement, ça peut générer des émeutes, des gens qui sont pas contents, qui sortent. Donc, j'adresse M. Macron, M. Nunez, M. Darmanin, relisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et vous verrez qu'on a le droit d'aller dans les rues. Pour foutre le feu aux poubelles.
C'est une lecture un petit peu directe.
Bon, alors, qui sont les anti-parlementaristes? À la Révolution, il y a ceux qui ont perdu gros.
Oui.
Qui soutenaient l'Ancien Régime, ou qui vivaient de l'Ancien Régime.
Ce qui deviendra ensuite toute la contre-révolution, la contre-révolution et la réaction monarchiste. Ça c'est assez classique. Et puis il y a ceux qui ne réagissent pas, dont on ne sait pas grand-chose, qui sont les laissés pour compte. C'est-à-dire ce qu'ensuite le Marx appellera le lumpenprolétariat. et qui existe déjà, je veux dire, et qui n'est pas forcément dans les villes, hein, qui est aussi dans les campagnes, et dont tout le monde se moque éperdument, quoi, y compris les élus et les élites.
Il y a le lumpen prolétariat, mais il y a quand même... effectivement, les bourgeois qui ont compris qu'il y avait un rôle à jouer, qui sont en plein essor, et qui aimeraient bien, qui aimaient déjà avant, sous l'Ancien Régime, prendre les rênes du pouvoir, mais là, du coup, ils les ont. Mais il y a aussi tous ceux qui trouvent que le Parlement ne va pas assez loin dans la Révolution. Parce que je crois que le problème des parlementaires, ça on pourra peut-être le voir aussi, peut-être faire un petit focus sur la rémunération des parlementaires, c'est une fois qu'ils sont élus, ils représentent peut-être plus totalement l'ensemble, mais
une certaine place.
Ce qu'on appelle aujourd'hui les lobbies, mais ça peut être des financiers, des banquiers, des personnes influentes. Des influenceurs, déjà à l'époque.
De toute façon.
Et donc, il y a le peuple, quand même, qui se rend compte de ça. Parce que, bon, tu parlais du lumpen prolétariat, mais il y a quand même, pendant la Révolution française, il y a quand même des clubs, des sociétés populaires, il y a la Commune de Paris. C'est des éléments qui vont quand même influer sur le Parlement. Ah oui, ils vont se faire péter la gueule aussi.
Oui, mais qui vont causer les journées sanglantes, par exemple.
Ils vont causer des journées sanglantes. Je suis pas forcément convaincu. C'est peut-être aussi en réaction. Tu peux me dire non. Mais
c'est la réalité.
C'est
la réalité.
Non, c'est ta réalité, pas la mienne.
Non, c'est une analyse historique. Après, t'en fais ce que tu veux. Ouais. Je m'en fous. Mais.
Moi, je ne le vois pas comme ça, justement. Ouais, c'est quand les. Passer aux hébertistes, c'est 1793.
Ouais.
Les hébertistes ont fomenté des émeutes populaires. Ils sont tous fait guillotiner. Il y a quand même les Girondins qui voulaient pas perdre la main, qui ont mis en place le comité de salut public. C'est pas le peuple qui a fait ça. C'est pour le peuple qu'on met le comité de salut public en place, mais c'est pas pour le peuple. En fin de compte, c'est pour éliminer des opposants politiques.
Bien sûr.
Mais donc, toute ta vision n'est pas la même que la mienne.
Toutes les factions, de toute façon, se sont
opposées.
Se sont entre-déchirées pour conserver le pouvoir.
Bien sûr.
Et tous ont glissé dans le sang de toute façon. Donc,
Oui, c'est cette image d'Épinal là de la Révolution française là où le départ c'est pour certains c'est le 14 juillet et ainsi de suite la prise de la Bastille et tout ça. Bon, ce qu'il faut rappeler c'est qu'il y avait le tiers-état quand même avant et ainsi de suite, une forme de parlement en quelque sorte, je sais pas si on peut vraiment parler de ça du parlement. C'est pareil, on a une image, est-ce que moi je connais pas le programme de l'éducation nationale qui parle de la révolution sur plusieurs années, en plus de ça, c'est la période révolutionnaire, c'est jusqu'environ 1794 environ, peut-être, en gros,
1799,
il y a eu le directoire, il y a eu d'autres choses, qui était censé lui aussi mettre un petit peu, disons, de l'ordre dans tout ça, et ainsi de suite. Mais bon, moi, ce que je me suis aperçu, j'ai lu un bouquin il y a fort longtemps, je ne me rappelle même plus de l'auteur ou de l'autrice, mais j'en suis tombé un petit peu de ma chaise en me disant, la représentation qu'on me donnait dans les films, dans beaucoup de choses, en fait, n'est pas vraiment celle des historiens et des historiennes qui mettent bien en avant ce que vous avez dit auparavant, c'est-à-dire qu'il y avait des factions, des clubs, les montagnards,
les sans-culottes,
enfin, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des rivalités
pour garder le pouvoir, c'est-à-dire, et puis c'est garder le pouvoir et imposer sa façon de voir les choses en plus de ça. C'est-à-dire que n'oublions pas que quand même Robespierre, Danton, c'était pas des gens qui étaient issus de la plèbe, hein. Alors je me rappelle plus si c'est Robespierre ou Danton qui était avocat ou des choses comme ça. C'était quand même des gens.
Danton.
C'est Danton, ouais.
Oui. Oui, c'est
des... C'était quand même, disons, peut-être pas une majorité, mais il y avait beaucoup, comme tu dis, de la bourgeoisie naissante qui était éduquée, qui avait déjà, disons, un certain niveau de vie, et donc qui manipulait le gouvernement. Hein. Donc, comme tu parles si bien aussi des lobbyistes et ainsi de suite, oui, en effet, il y avait cette rivalité déjà à l'époque. Donc, moi, ce que j'engage, c'est s'il y a des personnes qui veulent s'intéresser à cette période de l'histoire, eh bien, c'est pas tout à fait ce qu'on nous raconte. Et puis, le roman national, le mythe de la Révolution qui s'est passé que le 14 juillet 1789, et puis après, tout était beau, tout était joli, et ainsi de suite, et puis que, en fait, on est les héritiers de tout ça, ben non, on n'est pas les héritiers de tout. Enfin, disons, quelque part, oui, mais non.
Mais pas que.
Et pas que. Voilà, oui, exactement.
Bon alors, oh. C'est pas la peine.
Mais alors quoi?
Mais alors, rien.
Moi je maintiens quand même. Hein, bien sûr, il y a quand même, même si la population n'est pas éduquée, ce qui est alors. Le reproche qui est fait des socialistes qui vont arriver un petit peu plus tard, si on est à peu près, quoi, on a dit au directoire, donc, qui vont arriver d'ici une trentaine d'années, et ils estiment pas éduqués pour participer au parlementarisme, justement.
Oui.
C'est surtout ça. Mais en fait, ils n'ont pas besoin d'être éduqués pour être dans la mesure où ils agissent. Après, c'est ça le parlementarisme. Hein. C'est soit tu es acteur. Tu parlais de l'open prolétariat qui bouge pas, qui est attentiste, qui attend. C'est la grande masse. Mais ce qui compte dans l'anti-parlementarisme, enfin celui qu'on peut aborder, là, c'est ceux qui bougent, qu'ils soient d'extrême droite. Issus des déçus de l'ancien régime ou qui vont donner l'extrême droite plus tard ou des nationalistes ou même des révolutionnaires de gauche. Il y a ces minorités et il y a quand même des qui est à l'écoute plus ou moins plus mitigé sur l'extrême droite. On va l'appeler l'extrême droite, ce sera plus simple. Même si je sais que t'aimes pas de te faire des grimaces, j'en ai rien à foutre.
le nationalisme est né à gauche, hein, comme la propre.
Bref.
Ouais, vas-y.
Il y a quand même effectivement des sociétés populaires qui se bougent, qui réclament. Et même si c'est pas la majorité, si c'est pas tout le peuple, comme tu le disais Frédéric, c'est depuis 1789, c'est pas tout le peuple qui met la main à la pâte pour créer la révolution, non, ce sont des minorités toujours.
Oui, voilà.
Et même au sein de la bourgeoisie, de toute façon, même s'ils détiennent le pouvoir, c'est une minorité. C'est encore plus une minorité.
Mais
il y a quand même du peuple dans la rue. Soit pour. Alors, je pense pas qu'ils soient spécifiquement anti-parlementaristes, justement, ce peuple de la Révolution. Je pense qu'ils attendent des parlementaires qu'ils suivent un petit peu le cours de la Révolution, qui viendrait du peuple, et le peuple se rend compte qu'il y a. Les parlementaires, ils parlementent et ils perdent du temps, ils freinent. Effectivement, il y a des. Je sais pas si on peut appeler ça des conflits d'intérêts, mais.
Si, bien sûr.
Voilà, tu citais Danton, tu as cité Danton et Robespierre. Je crois que s'il les distingue, c'est qu'il y en a un, Robespierre on l'appelle l'incorruptible, et c'est presque en opposition à Danton, qui lui était carrément corruptible.
Et corrompu.
Et corrompu.
Oui, puis il y a le distinguo entre ces minorités décisionnaires ou activistes, ou je sais pas, d'action, enfin bref, et le peuple. C'est que le peuple, il s'inscrit, il avait des besoins assez simples, mais aussi assez urgents auxquels il fallait remédier, comme manger, se vêtir, qu'est-ce qu'on fait pour relancer, puisqu'une fois que la révolution est lancée, il n'y a plus d'encadrement pour les travaux des champs, pour... ça a désorganisé en partie la production agricole et ça a combiné à des émeutes, à des pillages, à des appropriations parfois indues, c'est-à-dire où les plus riches ont
spolié les plus,
bien sûr, oui, et puis à des départs, des fuites. À des fuites, des départs volontaires. Donc il y avait moins de main-d'œuvre dans certaines régions. Beaucoup de jeunes sont partis vers les villes, parce que les révolutions, c'était aussi un appel, certains bras pour aller. L'excitation aussi de participer, même sans le savoir, mais en le sentant, à un mouvement historique. Et donc les campagnes qui quand même nourrissaient la population jusqu'en 1940, en tout cas, une majorité dans les années 30 encore vivait à la campagne, dépourvue de bras, donc on n'avait plus de quoi nourrir. En plus, ils faisaient un temps de merde.
Il y a les campagnes agricoles, mais aussi les campagnes militaires.
Oui, qui viennent s'ajouter.
Donc, je pense que venait le
manque de main-d'œuvre, bien sûr.
Alors, le manque de main-d'œuvre et puis la contestation aussi, parce que c'est vrai que si tu bosses et puis que c'est pour nourrir des mecs qui vont faire la guerre.
Et puis les réquisitions aussi.
Avec la loi Le Chapelier, l'interdiction des coalitions, tout ça, c'est. C'est pour justement qu'on puisse fabriquer de l'armement sans qu'il y ait de contestation.
Et à partir d'août-septembre 1792, effectivement, c'est la guerre aux frontières. Donc là, non seulement il n'y avait plus de bras parce que tout était désorganisé, il y a une partie de ceux qui savaient, qui avaient les outils intellectuels et puis qui avaient l'habitude d'organiser la production, qui était partie ou qui se planquait parce que ça sentait pas bon pour eux. Et puis après, on a demandé des bras pour aller à la guerre. Alors, au début, on est un peu joyeux, tout ça, on va leur mettre une raclée, ça va aller vite. Puis on s'aperçoit que la guerre, ça dure, c'est comme partout, c'est comme tout le temps. Les guerres rapides, ça n'existe pas. Ça s'enlise forcément. Et ils se sont retrouvés ensuite non seulement à aller fournir des bras, mais après à fournir de la production pour plus des bras. Donc là, effectivement, on se retrouvait dans des situations de détresse.
Ce qui a donné aussi l'insurrection vendéenne sur la conscription et ainsi de suite, parce que il y avait déjà peut-être un foyer royaliste et très attaché au cléricalisme, au catholicisme, ainsi de suite, parce que pour eux, les prêtres jureurs qui avaient juré fidélité à la Constitution et à l'Assemblée, enfin, je ne sais plus exactement dans quel terme, donc ça choquait déjà beaucoup les sensibilités religieuses, et puis il y avait la loi de la conscription qui retirait de pas mal de régions des jeunes gens pour partir à la guerre pour un certain temps, et puis parfois ne pas revenir. Aussi. Donc, ça a attisé la révolution, quelque part, a été le détonateur, mais oui, enfin, disons oui, le détonateur de certaines insurrections régionales. Peut-être même, j'ai pas connaissance, mais est-ce qu'il y a eu pas des mouvements comme
Normandie,
ça dans d'autres villes autres qu'en Vendée, mais en fait, voilà. Donc, cela dit, les royalistes, pour moi,
C'est toute la périphérie.
D'ailleurs, bon, ils sont révoltés, ils ont perdu, tant pis pour eux. Mais bon, je suis pas un nostalgique de la Vendée, mais enfin bon, aussi, il faut quand même ainsi. Alors, c'est pareil. La Révolution, quand on parle de la Vendée, malheureusement, ça a été un horrible bain de sang aussi. Hein. C'est-à-dire que t'avais les colonnes infernales du général Thurot qui passaient, et donc, je sais plus qui était, c'est peut-être Robespierre, hein, ou je sais plus à l'époque, des guerres de Vendée, les colonnes infernales, c'était, c'est-à-dire tabula rasa, c'est-à-dire table rase, voilà, c'est-à-dire il fallait, il y a plus de bétail, plus de vieux, plus d'enfants, plus de femmes, plus rien, c'est-à-dire voilà, donc.
Ouais, t'as pu emmerder, c'est inspiré de ça un peu Staline,
ouais.
Non
Donc, bon,
pas d'homme, pas de problème.
Cela dit, je suis pas pour les royalismes, enfin pour les bains de sang comme ça qui relèvent pratiquement, qui relèvent carrément du crime contre l'humanité, hein, ni plus ni moins. Hein, si on devait donner une définition qui n'était pas à l'époque, c'est quand même, disons, des populations civiles dans les villages qui étaient prises pour cible avec, voilà, hein, c'est-à-dire des charniers, des machins comme ça, comme on en redécouvre parfois encore quand il y a des travaux qui sont faits dans ces parties de l'ouest de la France. Hein.
Bah, disons que l'ouest, parce qu'il y a eu ça en Normandie, en Bretagne aussi, l'ouest était des régions agricoles, tant qu'on leur demandait de fournir un peu de grain, un peu de blé, machin, bon, ils participaient à l'action nationale. Hein. C'était pas... Après, effectivement, quand il s'agit d'envoyer leurs jeunes, ils n'étaient pas d'accord. Ils avaient un autre projet.
Puisqu'on parlait de répression...
Ah bon?
Oui, parce que c'est de la répression. Hein,
bon, il n'y en a pas, ça n'a jamais existé.
Les sociétés populaires, justement, ils rendent les... Ah, puis après, peut-être... On va faire toute l'émission là-dessus, en fait.
sur la révolution.
De la vie chère, c'est attribuer une indemnité, des indemnités intéressantes, en fait. Ce que reproche, alors ça, on peut le voir dans les rapports de police, ce qui mécontente le peuple, c'est que la révolution n'est avantageuse, là je reprends les termes des rapports de police, n'est avantageuse que pour les députés. Ils s'enrichissent au détriment du peuple. Alors, pour vous dire juste comme ça, un petit truc, depuis septembre 1789, chaque député touche 18 livres. Qui correspond aujourd'hui, si on le.
Oui,
je ne sais pas si c'est bien exact, mais ça fait 304,97 € par jour. C'est pas mal. Alors après, avec des augmentations qui ont doublé en 1795, en 1798. Tout ça, les gens qui crèvent de faim, ça leur fait peut-être mal. Éduqué ou pas éduqué, quand ça leur fait aux oreilles, ça leur plaît pas, forcément. Est-ce qu'on parle rapidement des différents systèmes parlementaires qu'il y a eu, liés aux indemnités ? Parce qu'il n'y a pas toujours eu des indemnités, donc il y a eu des indemnités, mais en fonction, sous la monarchie censitaire, il n'y a plus d'indemnités parlementaires. Donc, il y a des parlementaires, mais il faut qu'ils gagnent leur vie. Et en général, beaucoup, alors je ne sais plus dans quelle proportion, peut-être un tiers des élus, sont fonctionnaires dévoués au régime, puisque c'est le régime qui les nourrit, autant que, qu'il le favorise. C'est en 1848 qu'il y a un rétablissement de l'indemnité parlementaire qui passe à 25 francs. Par jour de session. Et puis à 9000 francs par an. C'est pas mal. Il faut savoir que le salaire moyen d'un ouvrier est d'à peu près 5 francs à l'époque. Ce qui correspond à 25,30 €. Voilà.
Ben oui, ça fait partie. En fait, ça fait partie d'un des trois. À mon avis, une des trois formes d'anti-parlementarisme. Ça appelle. En réaction des trois formes d'antiparlementarisme, c'est la critique de certains parlementaires dans leurs prérogatives.
hein, les abus qui peuvent que le peuple voit dans dans des émoluments qui sont disproportionnés, qui leur confèrent encore plus de pouvoir, parce que non seulement ils souffrent pas par rapport à un ouvrier, mais en plus ils sont très bien payés. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est la critique du comportement qui est analysé comme inadéquat à leur fonction. Récemment, un ministre qui fait un bras d'honneur ou un doigt, je ne sais plus.
Ça dépend à qui il le fait.
Et ça, c'est vu par les Français, enfin, c'est critiqué. Donc, ça génère un antiparlementarisme de comportement. Et il y a le troisième point qui est le plus rare, et c'est celui qui fait l'objet notre attention, je pense, c'est l'antiparlementarisme systémique. C'est-à-dire que pas besoin de parlement, il n'y a pas besoin de gouvernement, on a autre chose à proposer. Voilà. Donc, en fait, toutes ces formes d'antiparlementarisme se sont nourries de ce que tu viens de citer, c'est-à-dire des abus, ce que le peuple considère comme des abus, des avantages, des privilèges. Et tuer le roi, chasser les nobles, etc. Il y a encore des privilèges.
Justement, avec les privilèges, on tue le roi, on chasse les nobles. Sauf que, justement, ce qu'on reproche aux parlementaires, c'est de reprendre la vie mondaine, de côtoyer les banquiers, les agioteurs, tout ce qui fournit des armes, des industriels, en fin de compte, hein, qui fabriquent
le dîner
armes.
Du siècle, quoi.
Voilà. Donc c'est...
Ça ne change pas. Ouais.
Bon, tout ça en général, ça génère des émeutes qui sont réprimées dans le sang. Alors pour les indemnités parlementaires, après ça n'a pas beaucoup bougé, je vais terminer juste là-dessus. Et il n'y a qu'en 1906 que c'est passé à 15 000 francs.
Et 15 000 francs or.
Oui, en plus.
Et un député nationaliste, puisque tu les aimes bien. Qui en apprenant l'augmentation aurait dit mon indignation n'a d'égal que ma satisfaction. après il faut ajouter aux 15 000 francs, il faut ajouter quand même les assistants parlementaires,
oui,
les avantages annexes, hein,
et puis les emplois fictifs, hein, par exemple,
les élus bénéficient en matière d'impôts, de transport, tout ça. C'est pour ça, justement, avec les parlementaires, c'est comme ça qu'on en arrive à des affaires Fillon, machin. Voilà.
C'est assez... Il y a quelque chose aussi qui était pas mal, hein, que j'avais vu en documentaire, qui est d'ailleurs issu de son livre, « Requiem pour le rêve américain » de Noam Chomsky, qui démontre qu'en fait, dès le départ... Quand en 1776, c'est-à-dire que t'as Washington, t'as tout plein, enfin bon, je me rappelle plus des noms, hein, Jefferson ou je sais plus quoi, enfin bon, qui construisent et qui écrivent la Constitution des États-Unis naissants, en fait, Noam Chomsky te démontre vraiment dans une logique implacable et irréprochable. Qu'en effet, dès le départ, c'était fait pour une élite. C'est-à-dire que tout était fait pour que le pouvoir soit centralisé, qu'il y ait des riches, qu'il y ait des pauvres, et que, en effet, comme tu le dis, ils sont pas éduqués, ils sont là pour bosser, ils ont qu'à fermer leur bouche, et ainsi de suite. Et voilà. Et donc, pour reprendre tes propos aussi, là. On défile et machin, ainsi de suite. Il y a de la répression, les syndicats de police, même Darmanin qui veut durcir la loi anti-casseur. Ils ont même parlé d'un nouveau délit d'érection de barricades et ainsi de suite. Et puis, on voit bien que tous les médias et ainsi de suite inverse la charge de la responsabilité, parce que s'il n'y avait pas eu cette réforme des retraites, il n'y aurait pas eu de manifestation, tout du moins par rapport à ça. Oui. Donc, ils inversent la charge de la responsabilité de ça, en fait. C'est-à-dire, le méchant peuple, et ainsi de suite, qui se rebelle, et ainsi de suite, et tout. Bah oui, forcément, si on nous foutait un petit peu plus la paix, et qu'on nous donne un petit peu plus, et même carrément totalement, le pouvoir de décider pour nous, par nous-mêmes, et pour nous-mêmes, bah, en effet, il y aurait peut-être une société quand même plus apaisée, plus égalitaire.
T'as vu cet enchaînement ?
Si ceux-ci voulaient bien t'aimer, tu croyais vraiment, sans même avoir de plan. Mais à 25 ans sonné, comme un con, tu t'es encarté. T'as côtoyé le gouvernant, t'as compris comment ça marchait. À 30 ans tu rêvais, plus de carrière que de changement. Toi et tes copains, vous en avez brassé du vent. Convaincu de faire le bien, resté sur le chemin des anciens. À colporter les mêmes conneries qu'il y a 300 ans. Coupé du monde et de la vie du peuple qui élit. J'ai pas de programme à te faire. De toute façon, je m'en branle de leur système, je crois plus en rien. Pas plus aux crétins qui gouvernent qu'aux abrutis qui croient. J'ai juste pas envie de me taire. Dans l'instant, là, dans les cafés, l'opinion s'est droitisée. Ils ont cherché les coupables en oubliant leur cartable. L'histoire n'a rien enseigné à tous ces tarés, sans même lever la tête. Ils avancent comme des bêtes, heureux de ne pas être affamés. Qui de leur fait du cassoulet, continueront de les voter. Gentiment se fait enfumer. J'ai pas de programme à faire. De toute façon je m'en branle de leur système, je crois plus en rien. Pas plus en crétin qui gouverne qu'aux abrutis qui croient. J'ai juste pas envie de me taire.
C'était un morceau des Clébards, un groupe que j'aime bien, breton. Oui, pochement, mais breton. Et voilà, donc un morceau qui date un peu, parce que soit de 2012 ou 2000, voilà, quelque chose d'un peu ancien déjà. Ils se produisent pas beaucoup, mais voilà, c'est dans des textes intéressants.
Bah là, on en était.
Oui.
On passe à quoi ?
Bah on était sur le. Moi j'ai envie de. J'avais soulevé un petit. Parce qu'on était dans les.
Bon, on est passé
voilà, un peu partout. Comment ? Étienne Cabet, moi qui m'a beaucoup intéressé, puisque dans son voyage en Icarie, donc on est en 1840, et il a un traitement de. Il a un discours anti-parlementariste qui est assez violent. Il écrit, je vais citer deux, trois phrases, « Rampant domestique et vorace, renard goulu, chien couchant, caméléon, loup cervier. Vous auriez trouvé toutes les espèces dans cette ménagerie. » Il parle du Parlement, évidemment. « C'était une poignée de riches, 200 à peine, choisis par une autre poignée de riches, 30 ou 40 000, ou plutôt désignés et nommés par les ministres qui disposaient des électeurs par leur influence et par les places ou faveurs qu'ils donnaient et promettaient.
Ouais, bah c'est... Voilà, c'est... T'as expliqué. Donc, monarchie censitaire. Donc, seuls ceux qui peuvent payer l'impôt peuvent soit élire à partir de 21 ans. Mais il faut que tu payes l'impôt, je ne sais pas, pour payer 1000 francs d'impôt direct.
C'est énorme.
Pour l'époque, oui.
Je crois que c'est ça. Hein. Et puis, il y a ceux qui peuvent être élus, qui doivent avoir 45 ans et payer plus d'impôts, ben encore. Oui. Donc, ce qui fait qu'il y a 15 000 éligibles pour, je vous ai dit combien, 100 000 électeurs. Et toute la population féminine, effectivement, ne fait pas partie de l'électorat, hein, quels que soient ses revenus.
Oui, c'est ça, il faut retirer les femmes.
Et la population, les c'est à peu près, ouais, femmes et enfants, c'est à peu près 9 millions. Hein, de, donc, 9 millions de personnes sont dirigées par 15 000 élus, 100 000 électeurs. Mmh. Pas mal, quand même.
Mmh. C'est égalitaire, hein, quand même.
Bah, c'est bien.
C'est bien.
On part du principe que ceux qui ont les moyens, dont l'argent, sont éduqués. Oui. S'ils sont éduqués, ils ont accès. Ils peuvent prendre les bonnes décisions pour l'ensemble de la population.
Alors justement, tu parlais de Cabet, mais il y a Blanqui, Barbès aussi. Ce sont des gens qui sont. Après 1848, la Deuxième République, sont opposés à des votes, à des élections immédiates. Parce qu'effectivement, la population passe de. Enfin, on était passé de 170 000 à 9 millions d'électeurs. Des gens qui ont. Alors, des gens qui préalablement ne s'intéressaient pas justement au parlementarisme, hein, puisqu'ils n'étaient pas concernés. Ils ne pouvaient pas voter, donc ils n'en avaient rien à foutre. Ils subissaient. Là, d'un seul coup, bien qu'ils ne soient pas éduqués, on leur demande d'élire des représentants, et comme tu le disais, Eric, ça se faisait déjà avant, donc tu pouvais influer, faire des promesses, garantir je ne sais quel droit, donc, et faire appel à des ce qu'on appelle les influenceurs aujourd'hui, mais des personnes influentes pour gagner des votes.
Oui, oui.
Donc effectivement, les socialistes de l'époque sont pas favorables à ce que toute la population puisse voter dans l'immédiateté, sans qu'on l'ait un petit peu éduqué, travaillé sur. Ouais. Ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, en fait, du coup, ça pouvait servir qu'à la bourgeoisie, aux bons orateurs, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas la même capacité d'élocution. Mmh. C'est pas moi qui vais dire le contraire.
Mais ça ne servait qu'à ça, d'ailleurs, à remplir les urnes, à bourrer les urnes. Mmh. Quand le sens a baissé, quand la capacité, quand on est tous les citoyens français en âge de sont devenus capacitaires. Ils ne savaient pas forcément lire et écrire. Hein. Enfin, je reviens sur la Bretagne, par exemple, un petit peu. Les élections, c'est souvent, on vote toujours sous la direction d'une personne qui est une personne bienveillante, qui est un notable, c'est imperceptible, mais qui va faciliter l'acquisition d'un bois, faciliter le passage d'une rivière, faciliter. Voilà, des petits arrangements qui vont favoriser le. Et tout le hameau, tout le village va voter
en fonction des promesses.
Comme un seul homme sur ses. Alors, en fonction des promesses, mais parfois ces promesses se réalisent. C'est-à-dire que là, on est sur un fonds de commerce. Le parlementarisme a son fonds de commerce, parce qu'il ne peut pas vivre, il ne peut pas durer sur du mensonge. Il a une part de. Voilà, de réalisation, en tout cas, mais ça reste du clientélisme.
Ça n'a pas tellement changé. Enfin, disons.
un petit peu quand même, mais.
Alors, si on parlait. Si on abordait nos amis socialistes. Hein, qui critiquent la société et aussi l'État bourgeois. On a des gens comme Louis Blanc, des choses à dire là-dessus, non ? Eux, on va dire, c'est les socialistes autoritaires hein, qui sont pour la conquête politique. Bien qu'il ait pu être déçu justement de 1848. Enfin, donc oui, la conquête politique, c'est un préalable aux réformes sociales. D'autres. Ça va être l'émancipation des travailleurs se fera sans l'État, par l'association volontaire. Ça, c'est ce qui nous intéresse plus, enfin moi en tout cas. Donc là, on a des gens comme Fourier. C'est pas forcément c'est le meilleur référence, mais il est un petit peu comme toi, lui. Hein. Il se méfiait justement des révolutions de type 1789. Il y a un État fondé sur la contrainte, qui n'assure au peuple qu'un patrimoine de haillons, de bagnes industrielles, de galères et de gibets.
Je partage. Je partage.
Il avait une bonne opinion.
On en a un autre qui va plus plaire à Frédéric, c'est Proudhon. Qui est style l'égard de l'État comme toute autorité. Hein, le pouvoir politique serait remplacé par le libre contrat et l'association mutuelle. Et il déteste la démocratie, dit-il. Alors, par principe, la loi, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, la loi de la majorité n'est pas ma loi, c'est la loi de la force. Voilà, ça pour expliquer que le suffrage universel est une duperie. Et puis, il y en a un autre que là, moi, j'aime bien. Ça, j'ai un petit peu servi tout le monde. C'est le grand Blanqui. Ah, lui, il croit à l'action politique et à la prise du pouvoir par l'insurrection. Grâce à une minorité révolutionnaire, lui justement, il dit on ne peut pas compter sur le peuple tant qu'il n'a pas reçu d'éducation. Chose en quoi je ne suis pas hostile. Hein. Alors, je peux citer des phrases.
Même le peuple éduqué.
Oui, déjà. Donc, il a dit à propos du suffrage universel, c'est le pognon élevant l'urne du scrutin tenu au collet de chaque côté par le curé et le gendarme. Alors, ça serait le gendarme et le spéculateur, le financier, je ne sais pas. Il s'oppose à la foire électorale et tous les bulletins de France et de Navarre ne pèsent pas un grain de poudre. Ah, c'est beau ça.
On est en plein romantisme.
Mais il n'empêche que ça sera une influence pour les républicains qui vont s'inscrire et lutter pendant la Commune de Paris, et notamment contre les Versaillais. Voilà.
Je trouve ça un peu réducteur, quand même, cette espèce de... Bon, l'éducation populaire, libertaire, ou des choses comme ça, enfin, ça c'est intéressant comme... Mais ça part pas du principe que une population et autre est complètement tarée ou incapable de. C'est-à-dire que y a un côté un peu méprisant, je trouve, de la part de certains socialistes qui partaient du principe que la population n'était pas éduquée. Et devait passer par une éducation avant de s'émanciper, ainsi de suite.
Bah, quand t'es pas. Alors, je vais t'interrompre, là, du coup. Quand, effectivement, t'as pas la notion de lutte de classe, et que tu penses que. Tu vas pouvoir te hisser en haut de l'échelle sociale,
L'ascenseur social.
En léchant le cul des patrons, en leur sciant les bottes, ça va pas faire quelque chose de très bon. Donc, l'éducation, c'est au niveau de développer une conscience de classe et des moyens d'action qui sont autres que le parlementarisme.
Oui, il ne s'agit pas d'apprendre à lire, à écrire et à compter.
Oui, non, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fameux ascenseur social, pour remettre un peu d'actualité, en faisant croire qu'en effet, si tu... que tu adoptes la Startup Nation et ainsi de suite, comme l'autre a dit, en faisant croire et miroiter la théorie du ruissellement aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on attend toujours les ruisseaux, on se prend des sauts de flotte, mais enfin bon, c'est que de la flotte, hein, c'est pas du fric. À bas le fric aussi. Et donc,
moi, c'est pas du fric que je veux, mais c'est du temps libre.
Voilà, exactement. Donc, tous ces trucs-là, comme tu le disais, de façon si pertinente, en effet, c'est-à-dire que il y a peut-être encore, et je pense, même actuellement, des personnes qui pensent qu'en s'élevant dans la société par le statut, par la profession et ainsi de suite, ils arriveront à s'extraire d'une condition sociale difficile, mais ça va se faire forcément au détriment de ceux d'en dessous. Mais bon, l'ascenseur social, c'est bien gentil, mais quand tu montes dans les strates de pouvoir et ainsi de suite, si tu prends l'image de la pyramide, en haut, il y a une place que pour une seule personne, donc l'ascenseur social, c'est une du prix. Hein, parce que plus tu vas monter, moins il y aura de place et plus il y aura de concurrence. Et si tu pars
dans... De toute façon, si tu montes, c'est que déjà, tu n'es pas sur la même base que ceux qui sont en dessous.
C'est
supérieur.
C'est la pyramide qui est une du prix.
Et puis, ce qu'on voit, la pyramide, c'est pareil, ce qu'on oublie, c'est que dans cette représentation, ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'il y a des étages inférieurs à la pyramide, c'est-à-dire des sous-sols, premier sous-sol, deuxième sous-sol, troisième sous-sol. C'est-à-dire encore, même quand t'es à la base, t'as même encore des gens qui sont en dessous de la base, quoi, tu vois.
Est-ce que je peux faire une dernière citation de Blanqui, puisque c'est justement sa verve qui me plaît beaucoup, hein, à propos d'une assemblée. Alors, qu'est-ce donc, après tout, qu'une assemblée ? Un ramas de nullité et d'égoïsme où priment quelques artistes de la parole, bientôt les guides du troupeau et les maîtres de tout le monde. Le pouvoir passe entre leurs mains et le premier usage qu'ils font pour le conserver, c'est d'assouvir les cupidités et les vanités dont ils dépendent.
Tout est dit.
Voilà. 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 Comprenez pourquoi j'aime bien Blanqui.
Il n'a pas dit des choses. Non mais je suis pas, disons, tout à fait. Je suis pas tout à fait d'accord 100% avec lui, mais bon, il n'a pas dit que des.
Il avait le temps de faire de l'analyse.
Hein. Bah le pauvre, oui, ça, ils l'ont tellement foutu en prison. Ça, quand tu déranges un peu trop, même des soi-disant progressistes, bah on te fout en tôle, quoi. Hein. Ça, t'as, même dans les systèmes, quand tu commences à être un petit peu trop remuant et que tu remets en doute l'ordre établi ou en cause l'ordre établi, bah même des progressistes sont bien contents que tu sois enfermé entre quatre murs, quoi.
Est-ce qu'on évoque rapidement la Troisième République ?
Allez.
Oui, bah alors les
Troisième République, et ben là justement le parlementarisme il est souhaité en réaction au Second Empire. Mmh. Alors il y a eu quand même la Commune, avec la répression de la Commune surtout, ce qui a quand même affaibli les mouvements socialistes.
Mmh. Ouais, tout.
Parce qu'il y a quand même pas mal de morts. Mmh. Alors il n'y a pas que des morts, hein, y a
des exilés,
tout un tas de condamnations. Il faudra attendre 1880 pour que ceux qui ont survécu puissent revenir, dont Louise Michel.
Oui, les lois d'amnistie. Oui.
En 1882, j'ai vu que les anarchistes rompent avec les socialistes et ils commencent à poser une bombe. Parce qu'effectivement, alors les anarchistes ont été, c'est quand même eux des grands perdants, dans la mesure, on va dire que l'anarchisme, il y en avait forcément pendant la Commune, des proudhoniens peut-être plutôt. Mmh. Donc il y a eu pas mal de morts pendant la répression. Il y a eu les anarchistes qui ont été exclus de la Première Internationale. Ils se rendent compte qu'effectivement, le socialisme, c'est peut-être plus tout à fait leur truc. Il faut peut-être se démarquer un petit peu. Donc, ils profitent de l'interprétation de la propagande par le fait pour poser des bombes. Et si la première qui va éclater, ça va être à Lyon en 1882, semble-t-il, en France. Mmh. Voilà. Mais ce qui va aussi les écarter des autres. Donc, du coup, ça va vraiment créer un courant particulier et qui va être aussi réprimé puisqu'à partir de 1894, c'est ça, il y a les lois, c'est les rats, effectivement, et bah, le droit d'expression des anarchistes va être brisé, sauf que 1894, c'est pas loin de 1895, la création de la CGT, et justement tous ces anarchistes qui peuvent plus s'exprimer librement, en prenant l'anarchisme, vont rentrer dans le syndicalisme pour créer le courant syndicaliste révolutionnaire. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Mmh. Hein ? T'es pas d'accord ?
Si, c'est l'effet historique.
On dirait qu'il vient de se lever.
Non, c'est ça, c'est exactement ça. La propagande par le fait. Il y en a un qui a Sadi Carnot, hein, qui a été assassiné par un anarchiste.
Et plein. J'ai pas fait
tout le Sicile l'impératrice. Il
est en tête, je sais pas. Mais en tout cas, ils vont parce qu'on arrive, il est 48, on arrive à la fin de notre émission.
Première partie.
Donc, y a deux expressions du syndicalisme révolutionnaire qui vont se démarquer. C'est l'action directe. L'action directe, c'est toujours imposer la volonté d'une minorité par les voies normales de la démocratie. Mais en ayant recours à la violence. Donc l'anarcho-syndicalisme n'a pas recours forcément à la conquête de la majorité. Donc elle oppose le droit syndical au droit démocratique. Elle oppose le droit syndical, voilà. Hein, c'est le fédéralisme syndical, même on pourrait dire. Elle oppose l'homme libre. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est voilà, au droit démocratique, il oppose le droit syndical. À la foule esclave, il oppose l'homme libre. À la majorité inconsciente, la minorité consciente.
C'est beau.
Tout ça. On sent le blanquisme derrière, hein, quand même. Hein. Moi, j'avais pris d'autres notes, mais là, comme c'est des mecs qui sont pas bien incités, je veux pas le... Ça aurait plu, Eric,
on va sauter une trentaine d'années, parce que j'ai retrouvé, Sébastien Faure, qui a commis un dictionnaire de l'anarchisme, une encyclopédie anarchiste, qui a paru entre 1925 et 1934, et qui donne une définition, comme dans une encyclopédie, donc il y a des articles par thème, par mot, par occurrence, et j'ai trouvé que c'était assez piquant quand même, parce qu'à l'article anti-parlementarisme, il écrit plutôt. Établir l'impuissance et la pourriture morale des assemblées parlementaires, montrer l'incohérence et l'absurdité du système représentatif, prouver par des faits courants la malfaisance d'un régime qui, en conférant au Parlement un pouvoir en quelque sorte sans limite pour une durée beaucoup trop longue, et qui gère tous les intérêts d'une nation, enlève à la population tous ses droits et la gestion de ses propres affaires. Tel est le but que poursuit l'antiparlementarisme. Donc,
toujours d'actualité.
Voilà, on fait la boucle. Et c'est assez, assez puissant. Il y a d'autres articles dans son encyclopédie qui est assez, assez riche et qui est à la marge aussi, qui vient renforcer cette définition de l'antiparlementarisme.
Alors, je disais qu'il y a deux expressions du syndicalisme révolutionnaire qui se démarquent, c'est l'action directe, la grève générale aussi. Alors, toi, tu t'en fous, Frédéric.
Pourquoi ?
Je sais pas. Pour la grève générale. Donc c'est l'acceptation de l'idée de grève générale que le syndicalisme révolutionnaire dépasse le socialisme politique. Déjà là, effectivement, entre les syndicalistes révolutionnaires et puis les autres socialistes, hein, type Jaurès, même Jules Guesde, même si... Bref, ça va, y a déjà une distinction. Ils sont plus poteaux. Et d'ailleurs, et dans les socialistes, il y a aussi des Clémenceau, qui vont prendre le pouvoir. Et quand des gens comme Benoît Brouchou ont mené la grève des mineurs au Pas-de-Calais en 1906, l'autre con, il va les réprimer. Et je rappelle quand même que Clémenceau est une des références de Macron, qu'il avait dit lors de son premier mandat.
Mais quel Clémenceau? Clémenceau, c'est pareil.
s'appelle Clémenceau qui réprime, visiblement.
Oui, apparemment, il a dû. Oui.
Parce que le socialisme, il s'est délité et il a vécu. Quoi, c'est, forcément.
Tiens, j'ai eu un livre assez intéressant d'Isabelle Attard, Comment je suis devenu anarchiste. C'était une ancienne parlementaire, députée, je crois, du courant écologiste. Et donc, elle a vu tout ça de l'intérieur. Elle a été tellement, tellement dégoûtée. Enfin, d'ailleurs, elle en est partie. Elle a voulu aussi tenter une expérience, je crois, à Caen, c'est-à-dire donner, parce qu'elle était conservatrice d'un musée ou je ne sais plus quoi. Et elle a voulu mettre en place, disons, une presque une autogestion de donner plus la parole, donner le pouvoir de décision, et en fait bon bah c'est heurté un petit peu à des réticences de personnes qui étaient tellement habituées pour certains et certaines à être managées quoi en fait. Mais c'est intéressant son livre parce que bon bah elle a vu l'intérieur du Parlement et qu'en effet dès qu'on commençait à être un petit peu trop pas anti-système mais enfin bon qu'on pointait du doigt certains dysfonctionnements même les personnes de ton parti te remettaient alors ainsi de suite en disant attention tu vas casser la baraque ainsi de suite donc bon c'est un petit livre à lire si ça peut intéresser des personnes pour voir que qu'il y a des parlementaires qui sont quand même qui en sont revenus qu'en fait hein, quelque part hein.
Ben oui, je sais plus où on en est. Là, je vois que ça va se terminer. Donc, mais j'ai encore plein de trucs. J'ai encore plein de trucs à dire sur la grève générale.
Eh ben, on fera
partie
ça.
Partie 2.
Voilà, on
va faire une deuxième partie.
Ah, bah oui.
On est parti dans tous les sens, là.
Partie
2. Et puis ça grogne là-bas.
Et après, il va dire que c'est de ma faute.
J'ai dopé le chat.
Il y a un gros chat, là, qui nous informe que c'est. On arrive au terme de l'émission. Bon, bah, officiel, on va faire une seconde émission. Une
deuxième partie.
Tu vas revenir.
Tu vas revenir.
Bah ouais, si tu m'invites, ouais.
Est-ce qu'on a le choix?
Ouais, bah, on fera peut-être un peu plus sur les anarchistes et puis les syndicalistes révolutionnaires.
Sébastien Faure, on était dedans.
Bah oui.
Mais il Pouget aussi.
Il y a Pouget, sabotage, Pelloutier aussi. Même très important Pelloutier dans la mesure où effectivement, je pense que c'est lui qui a vraiment impulsé le syndicalisme révolutionnaire. C'est-à-dire que la CGT, la constitution de la CGT, c'est un groupement de syndicats qui devient une confédération. Mais c'est justement l'action des bourses du travail menée par Pelloutier et la CGT qui va donner naissance au syndicalisme révolutionnaire. Parce que les bourses du travail, comment je peux dire ça ? C'est pas une vision horizontale, mais les bourses du travail qui sont
autogérées, en quelque sorte. Quoi.
Ils sont, on va dire autogérées, pour te faire plaisir. Hein. Surtout, elles sont constituées en union locale.
Oui.
En fait. Donc, c'est pas corporatif. Et le but, c'est d'éduquer, effectivement, les travailleurs. Et cette éducation. Et ce fonctionnement horizontal, voilà, c'est ce que je voulais dire, qui va faire toute la différence avec la structure pyramidale qu'on pourrait connaître du syndicalisme tel qu'on le vit aujourd'hui, en fin de compte, avec un chef ou une chef. Voilà. Bon, je sens que les camarades du Protons Robif se font pressant derrière.
Oui. Et puis, peut-être arriver lors d'une prochaine émission sur les questions contemporaines. Est-ce que les gilets jaunes sont l'expression d'un anti-parlementarisme ? Est-ce que...
Alors, effectivement, on se fera une émission. Donc, on réinvite Frédéric. On verra en fonction des prochains invités. Ça sera pas dans 15 jours, parce que dans 15 jours, on devrait recevoir Jérôme Rodriguez. Et on va justement parler des Gilets jaunes. Ben, on verra si effectivement c'est l'expression d'un petit parlementarisme. Mais personnellement, je ne crois pas. C'est ce que j'ai dit un petit peu dans mon édito d'ailleurs. Enfin, j'ai sous-entendu. Enfin, oui, je l'ai dit.
Deux minutes.
On te remercie, Frédéric, d'être venu.
De rien. C'est avec plaisir que je suis venu.
Il est venu sans Maurice Demanger.
Ah oui. Hein? Ah oui. Ça, j'aime bien.
Ça va bien pour la prochaine fois.
La prochaine fois.
Bah, merci, Eric. Merci, ouais. Bénédicte.
Bah oui. La technique.
Je vais lancer le générique.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant,
porté
avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et...
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Le proton se rebiffe. La nouvelle émission sur Radio Libertaire, une rencontre entre la science et l'écologie.
On y est déjà ? Bonjour tout le monde, nous y sommes déjà légèrement pris au dépourvu, mais vous êtes quand même sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et évidemment sans la moindre publicité. Ce soir, c'est Le Proton se rebiffe et nous avons un invité que vous aviez déjà dans une émission il n'y a pas longtemps aujourd'hui, dans Trou Noir, Édouard Jourdain.
Bonjour.
Et je vais supplier Christiane, c'est très très fort dans nos casques, mais alors très 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 fort. Alors en fait c'est que Christiane a un plan secret d'assassinat. Alors là j'entends plus rien. Excusez-nous. On va y arriver. Là, pour l'instant.
Vous êtes en direct.
Hein? Nous sommes en direct, il n'y a pas de doute. Et là, moi, j'entends plus rien dans mon casque. Bon. Et là, toujours pas. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous m'entendez tout d'un coup pousser un cri d'horreur, c'est qu'il y aura un giclée de son qui me percera les tympans. Je n'entends toujours rien.
Et là ?
Pas grand chose. Vous inquiétez pas, l'émission va commencer dans un instant. Ah, c'est mieux. Voilà, moins. Un peu plus fort, un peu plus fort. Ah, c'est parfait. Oh, c'est parfait. Oh, ça fait du bien, là, comme ça.
C'est parti.
C'est parti, c'est un réchaud. Alors, la raison pour laquelle j'ai invité à venir dans cette émission, dont la technicienne sera Christiane, et qui se terminera avec la revue des infos du Proton tenue par Lulu. Eh bien, j'ai donc voulu inviter Édouard Jourdain parce qu'il a écrit deux livres qui m'ont intéressé à deux titres différents. Et le premier livre d'Édouard Jourdain qui m'intéresse, il a un titre un petit peu compliqué. « Quelles normes comptables pour une société du commun ?» Édouard, c'est toi qui as choisi le titre ?
Non, c'est pas moi, je te rassure. Ça a été toute une bataille avec l'éditeur. Moi, à l'origine, je voulais un titre un peu plus poétique qui aurait été « L'écriture de la valeur ». Mais on m'a dit, écoute, ça sera beaucoup trop abstrait, beaucoup trop poétique, on ne saura pas de quoi ça parle, et on est une cible, on est une niche, là, peut-être que ça peut intéresser les comptables, donc il faut qu'on parle de comptabilité, de normes comptables, et puis commun, c'est un petit peu dans le vent, ça peut marcher. J'ai bataillé, j'ai perdu la bataille, je t'avoue, mais voilà, le livre existe, donc j'ai réussi à garder ce titre de l'écriture de la valeur en introduction, quand même.
Magnifique. Alors, effectivement, une fois qu'on y passe du temps, qu'on décide de donner du temps de neurones disponible à la chose, on s'aperçoit que écriture de la valeur, c'est tout à fait important pour comprendre ce livre. Le deuxième livre dont on parlera, incidemment, il est publié chez Charles, les éditions Charles Léopold Mayer. Mayer comme Mayerling, M-A-Y-E-R. Et le deuxième livre dont nous allons parler ce soir, c'est Théologie au singulier du capital. Donc évidemment, les liens forts et étroits entre religion et fric. Et c'est publié aux Presses universitaires de France, au PUF. Et là, le titre est quand même nettement plus parlant. Alors, pour attaquer tout de suite la